Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Valérie Plagnol. Bonjour Valérie.
Bonjour Raphaël.
Présidente du Cercle des épargnants, à vos côtés Mathieu Plane. Bonjour Mathieu.
Bonjour Raphaël.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE et Stéphane Carcillo. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Responsable de la division revenu-travail à l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Bienvenue à tous les trois. On va parler gros sous, hein. Vos sous, vous, contribuables, à commencer par les comptes de la Sécu avec c'est la Cour des comptes qui le dit dans un rapport publié hier, le risque d'une dette éternelle. La Cour des comptes qui tire la sonnette d'alarme sur les comptes sociaux et propose quelques pistes de redressement plutôt explosives. On va les dérouler ensemble. Je commence avec vous, Mathieu. D'abord, qu'est-ce qui dérive? On a 4 milliards de déficits supplémentaires qui s'annoncent, alors qu'on était déjà à près de 20 milliards. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, ça n'avait pas été annoncé comme ça, mais le gouvernement avait déjà prévenu du surcoût budgétaire lié à la crise en Iran, du blocage du détroit. Ah,
c'est ça la cause, c'est la crise au Moyen-Orient qui pèse sur les comptes.
Il parlait au départ, c'était 6 milliards pour le budget global, hein, donc pour les finances publiques. Et là, on serait sur près de 4 milliards pour la Sécu.
Oui, alors que c'était 4 sur la dette portée par l'État et 2 milliards pour la Sécu. Là, on double.
Et certainement, voilà, les 6 sont un peu obsolètes. On serait peut-être plus à 8, certainement. Et on voit bien, il y a d'abord un effet croissance qui est plus faible que prévu. Alors, en plus, c'est des estimations, parce que pour le moment, le gouvernement n'a pas revu tant que ça sa copie hein, sur la croissance. On reste à 0,9.
Oui, il va falloir à un moment, non?
Bah, le 0,7 semble un peu plus dans les cordes. C'est ce que dit le FMI hein, aussi dans son dernier rapport. Bon, la Commission européenne a 0,8, mais 0,9 est peut-être un peu haut vu le choc économique qu'on subit.
Qui, d'ailleurs, la guerre n'est pas finie. Hein.
D'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal avec le discours de Sébastien Lecornu, parce qu'il dit qu'en fait, ce conflit s'installe plus durablement et plus intense que prévu. Donc, bon, si on fait ces petits calculs, effectivement, la croissance pourrait être encore révisée à la baisse par rapport à ce que dit le gouvernement, ce qui veut dire qu'il y a moins de recettes sociales et fiscales en face, et donc des déficits qui pourraient être supérieurs. Et puis, il y a les effets d'indexation potentiels liés à l'inflation supplémentaire.
Évidemment sur minima sociaux.
Minima sociaux, alors qu'il arrive quand même beaucoup plus sur 2027. Ça va être un gros débat de 2027,
ah oui. Hein,
c'est-à-dire qu'en fait, on a un effet de report.
Donc on n'est pas arrivé, c'est que le début. Hein.
Ah, c'est que le début. Et donc c'est pas intégré sur 2027. Enfin, je pense que c'est intégré dans la trajectoire future que propose la Cour des comptes. Et puis il y a ce fameux débat sur les exonérations de cotisations.
Oui, ça on y viendra.
Et leur indexation. Donc
effectivement,
je ne sais pas si le calcul de la Cour des comptes intègre justement le fait que le gouvernement veut faire un peu plus de 2 milliards d'économies en n'indexant pas le barème. Je ne crois pas.
Non, pas encore.
Donc voilà. Donc il y a les 4 milliards. Il y a aussi le fait qu'il y a.
Donc c'est moins de recettes et plus de dépenses, quoi.
C'est, voilà, exactement.
Si je résume.
Et que
dans une situation qui était déjà plutôt très très compliqué.
Sachant que, effectivement, il faut le rappeler, hein, c'est qu'on était, je crois, autour de 23 milliards sur 2025 de déficit sur ACQ, qu'on était censé passer en dessous des 20 milliards, mais qu'il y avait une reprise de l'État.
De 5 milliards
voilà,
de l'État.
Exactement, qui était quand même, en fait, il y avait des jeux de vases communicants. Hein, et donc, au fond, on voit bien qu'il y a un des gros angles morts, et assez clairement, c'est comment on fait pour réduire le déficit de la Sécu, parce qu'aujourd'hui, il est quand même structurel. On va pas se mentir.
Pardon, ça veut dire qu'en réalité, on est à près de 30 milliards d'euros, on est d'accord, de déficit sur la sécurité sociale, sans crise épidémique majeure. Je veux dire, on n'est pas en plein Covid, Valérie Plagnol. Qu'est-ce qui explique ce niveau de déficit quasi historique?
Alors, on voit effectivement, et c'est ce qui est intéressant dans le rapport de la Cour des comptes, qu'il y a un décalage d'un peu plus de 1% entre la croissance des dépenses et la croissance des recettes. Donc là, effectivement, c'est la dimension structurelle.
On creuse le déficit.
S'ajoute effectivement, comme l'a dit Mathieu, les éléments conjoncturels où effectivement, on sera amené très certainement à revoir à la baisse la croissance et les perspectives de croissance qui, de toute façon, n'étaient pas très brillantes pour cette année.
Oui.
Donc tout ça combiné ajoute effectivement de choc après choc les problèmes que nous connaissons sur l'ensemble des financement de l'assurance sociale. J'ai le sentiment que, effectivement, mais je crois qu'on va en reparler, il y a vraiment un enjeu maintenant de remettre à plat au regard d'une situation qui est celle, on le sait, du changement démographique.
Bah oui, du vieillissement de la population.
Et de nos populations en Europe, parce que c'est un sujet commun à beaucoup de pays, de retrouver effectivement un modèle qui soit beaucoup plus soutenable. Est-ce que ça passe par plus de cotisations, d'autres cotisations, plus, moins de dépenses, d'autres répartitions, c'est bien ça l'enjeu.
En plus de cotisations, enfin, c'est le travail, hein. Vous êtes un grand spécialiste du travail, Stéphane Carcillo. En France, c'est le travail qui porte quasiment la totalité des cotisations sociales, du financement de notre modèle social. Est-ce qu'on peut en mettre encore davantage, une pelletée sur nos travailleurs?
Alors, le gros sujet, c'est effectivement qu'on a aujourd'hui une double pression sur le système de financement. D'abord, on a un vieillissement démographique qui, comme vous l'avez expliqué, fait qu'on a des dépenses sociales qui augmentent plus vite que la croissance. Hein, on a des besoins qui augmentent et ça va pas s'arrêter. Hein. Donc ça, c'est clair que ce décalage, il est là pour durer. On a un deuxième problème, c'est que donc sur les dépenses, ça augmente vite. Et sur la croissance de l'économie, ça ralentit. Parce qu'en fait, on a des gains de productivité qui ralentissent.
Donc il y a un effet ciseau, quoi.
Or, si on finance sur les salaires, on finance aussi sur ce qui est tiré par la productivité. C'est-à-dire que les salaires, ils sont avant tout tirés par la productivité. Et quand la productivité ralentit, les salaires ralentissent, ils vont pas aussi vite que la dépense sociale. Et donc, on se retrouve avec un gap de financement qui est là pour durer. Et d'où la question, est-ce qu'on peut trouver d'autres sources de financement uniquement que le financement via les cotisations sociales, patronales et salariales. Et donc, c'est tout le débat sur la TVA sociale, la CSG, etc. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir élargir la base de financement de cette protection. Peut-être, oui, d'ailleurs, en clarifiant
on parle déjà beaucoup,
ce,
ouais,
qui est strict, ce qui relève strictement du caractère assurantiel. Je m'assure contre l'assurance chômage, je m'assure contre des risques de santé, ou ce qui relève plus de la solidarité, toutes les politiques familiales, etc. Il faut peut-être faire un nouveau tri, un nouveau nettoyage de ce financement. Tout ce qui a un caractère un peu de solidarité devrait être financé sur une base très large de taxation, type CSG, où on taxe tous les revenus.
Oui.
Ce qui relève plus de l'aspect assurantiel en tant que salarié devrait être beaucoup plus simplement taxé par des contributions sociales, salariales ou patronales. Et donc là, je crois qu'on voit qu'il y a un nettoyage à faire et il faut repenser, je pense, le système. Mais même si on fait ça, ça n'exonère pas de repenser le niveau des dépenses. C'est-à-dire que il faut faire ça pour clarifier et trouver des nouvelles sources de financement. Mais la France, comme d'ailleurs ses voisins, hein, parce que c'est commun comme à l'Allemagne,
il y a un comité des sages effectivement à économique, 5 experts qui ont remis hier un rapport au chancelier Friedrich Merz, tirant exactement la même sonnette d'alarme, hein,
mais bien
qui
sûr.
Est que le vieillissement de la population, la baisse de la natalité et la baisse de l'immigration font que les dépenses sociales en Allemagne ne sont pas viables. À l'horizon 2040, les cotisations représenteraient 50% des revenus des actifs. J'ai trouvé ce chiffre, moi,
bien sûr,
pardon, mais totalement dingue,
mais
en réalité.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets un peu partout. On ne part pas tous du même point de départ. C'est ça le problème. C'est que la France a des déficits depuis très longtemps. Et donc, dans tous les pays qui sont soumis à la pression démographique et au ralentissement de la productivité et de la croissance, on va générer cet écart dans nos économies, notamment européennes, dans lesquelles le modèle social de protection sociale est en général presque partout quand même extrêmement étendu, où on couvre tous les risques, où on a un filet de sécurité qui est quand même assez important. On est confronté à ce challenge et c'est sûr que le problème particulier de la France, c'est qu'on part déjà avec des déficits.
Bah oui.
En Allemagne, on projette les déficits, etc. En France, on part avec des déficits. C'est un peu le sujet. Et donc le problème, c'est pas tant le niveau des dépenses, c'est comment on va les financer et est-ce qu'on est capable de les financer. Il ne faut pas que ça génère des déficits parce que ce sont des dépenses courantes et que ces dépenses courantes ne doivent pas générer de déficits pour... On ne doit pas les faire payer par les générations futures.
C'est donc jouer sur les deux volets et recettes. Il faudra plus de recettes et réduire les dépenses.
Ce qui pose une question assez importante, c'est-à-dire que oui, effectivement, modifier le financement de la Sécu avec des risques différents, hein, si c'est effectivement plutôt assurantiel ou pas, donc contributif dans certains cas, on voit bien pour les retraites ou le chômage, hein, qui est une forme de salaire différé, c'est pas du tout la même chose si c'est un système plus universel qui doit être financé par un impôt plus large, quoi. Ça, c'est évident.
Oui.
Alors après, les transferts sont jamais très agréables, ça c'est sûr, mais par contre...
Alors, ça fait toujours des gagnants et des perdants.
Un transfert change les modalités de financement, mais fait pas forcément des réductions de déficit.
Mais bien sûr.
Et donc, par exemple, une TVA sociale, hein, qui était dans le débat, si c'est une pure TVA sociale, c'est des transferts, normalement, qui sont neutres budgétairement.
Oui.
Là, la question que soulevait Stéphane est juste, c'est qu'en fait, on part d'un point de départ qui est pas à zéro. Et qui est déjà à moins 20, voire même un peu plus creusé. Donc, il faut déjà combler ce trou. Et quand vous regardez les projections, je sais qu'il y a un travail d'Hippolyte Albi qui vient de sortir un livre là-dessus, il montre que le simple effet purement démographique, lié à la dépense par âge, pour la santé, les retraites, etc., amène sur 10 ans à peu près 3 points de PIB de déficit supplémentaire.
Eh oui.
Parce que vous êtes plus nombreux à avoir plus de 80 ans et que la dépense de santé au-delà de 80 ans est 10 fois supérieure à celle de quelqu'un qui a 20 ans. Si vous rajoutez ça en plus des effets de progrès du côté de la santé, qui est quand même l'innovation, en fait, coûte cher. D'habitude, dans l'économie, l'innovation permet de faire des gains de productivité, de faire de la croissance, baisser les prix, etc. Oui. Là, l'innovation dans la santé, plus vous êtes, vous permettez d'avoir une plus longue espérance de vie, mais plus ça coûte cher, plus les traitements sont coûteux. Plus les risques sanitaires mondiaux, c'est vrai qu'en fait, on en parle assez peu, mais le vrai sujet, c'est peut-être les retraites en soins, bien sûr, mais on parle assez peu, beaucoup moins, je trouve, de la question de la santé, qui est en fait une espèce avec, de bombe à retardement.
Avec des dépenses qui dérapent complètement
et,
aussi.
Et d'ailleurs, quand vous regardez la structure des déficits du système de sécurité sociale, je crois que deux tiers ou trois quarts sont liés à la santé, hein, quand même, aujourd'hui.
Avec ce risque d'une dette perpétuelle, hein, c'est ce que dit la Cour des comptes, qui donne ce chiffre incroyable. La charge, simplement la charge de la dette sociale, hein, portée par la CALES, c'est 250 euros par an pour un salarié qui touche 2000 euros brut. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin du SMIC. Est-ce qu'on peut continuer comme ça encore longtemps, Valérie Plagnol?
C'est vraiment compliqué dans la mesure où on voit bien que effectivement les modèles de nos voisins. Alors on a parlé de l'Allemagne. Moi j'ai regardé la Suisse, j'ai regardé la Suède. Qu'on soit dans un système à la suédoise qui est proche des systèmes anglais, bah, finalement c'est un problème de volume, c'est-à-dire que l'accès à la santé devient compliqué. Déserts médicaux, etc. Et nous connaissons cette situation. Du côté suisse, c'est le coût de la santé avec le risque de renoncement à se faire soigner. Donc là aussi, une difficulté particulière. Donc effectivement, il n'y a pas de système idéal, mais il est clair que le nôtre doit évoluer. Et je pense que sur la qualité des soins, sur l'organisation des systèmes, on va revenir à des systèmes, comme vous l'avez dit, assurantiels. Qui dit assurantiel, et je reprends les termes de...
Public ou privé?
De Jean-Marc Daniel, je l'ai écouté ce matin, mais je le suis souvent. On est aussi dans l'introduction de la concurrence et une certaine privatisation. Il y a quand même de l'efficience dans la dépense à remettre dans ce système autour de la contribution et des dépenses et de l'organisation des dépenses. Il n'est pas normal de laisser l'hôpital porter une partie de cette dette et se désagréger pour l'ensemble des personnes.
Donc
c'est recibler aussi les plus fragiles, mutualiser ce qu'il doit l'être, mais et clairement une partie de ces coûts sera portée par ceux qui le peuvent, mais aussi avec un système assurantiel probablement un peu plus coûteux.
On voit que c'est un peu ce qui se passe, hein, avec l'émergence de nouveaux centres de soins privés, avec aussi de nouvelles méthodes. On a un système qui est un peu compliqué.
Enfin, et c'est là où on retrouve de l'efficience dans la dépense. Il faut quand même aller vers... et ça, on va rejoindre la question de la réforme de l'État, de toute façon, et de la dépense publique.
L'OCDE, d'ailleurs, où vous travaillez, Stéphane Carcieux, a publié un rapport passionnant hier, que je veux souligner, sur les voies et moyens de redresser les finances publiques. Ils prennent plein de modèles, mais il y a trois voies, dont la voie danoise, notamment, pour redresser ses comptes publics, effectivement, qui passe par la réforme de l'État et l'IA. Pourquoi on n'y arrive pas en France?
Alors, je crois que la mise en œuvre l'application de nouvelles technologies dans la fonction publique, c'est hyper important. C'est potentiellement une source d'économie très importante. Mais l'État, c'est une énorme machine avec des systèmes d'information très différents. L'application de l'IA, ça coûte cher aussi. Hein, faut pas penser. Faut pas penser que vous allez mettre ChatGPT devant chaque fonctionnaire et que ça va fonctionner. Ce sont des systèmes qui doivent utiliser les données avec des questions de sécurisation des données qui sont hyper importantes. Le développement de logiciels propres aux administrations, ça coûte très cher. Hein, pas penser que c'est un vrai investissement et il faut vraiment bien penser à ce qu'on fait. Voilà, il y a des sources, mais c'est pas parce que on utilise tous ChatGPT ou les autres modèles d'IA qu'on peut penser que c'est aussi facile de le faire dans la fonction publique. L'autre sujet, c'est évidemment une fois qu'on a fait des gains d'efficience et d'efficacité, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on redéploie
les fonctionnaires
oui,
en question. Où est-ce qu'on peut effectivement diminuer le nombre de fonctionnaires, peut-être en ne renouvelant pas les départs à la retraite? Où est-ce qu'on doit mettre des fonctionnaires? Un des gros sujets aujourd'hui, c'est que on a l'impression que depuis quelques années dans les services publics, on a beaucoup digitalisé, mais on peut plus parler à personne. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, c'est absolument horripilant. Donc il faut pas penser non plus que tout va être absolument digitalisé, il faut vraiment penser à la qualité du service.
Eh oui, bien sûr.
Mais ce que dit l'OCDE, c'est que au-delà de cette digitalisation, des gains d'efficience, etc. Bon, ça c'est important, évidemment, il faut le faire, c'est l'avenir du service public, mais faut d'abord penser aux grosses masses de dépenses.
Et oui,
les grosses masses de dépenses en
France.
Ça,
c'est le modèle autrichien, hein. C'est rabot général et on évite d'augmenter la dépense des retraites.
En France et chez nos voisins, c'est santé et retraite.
Ouais.
Et en France et chez nos voisins, c'est la moitié de la dépense publique. Mmh. Et comme en France, on a une dépense publique de 57% du PIB, donc on est au taquet
oui.
avec peut-être la Suède ou la Finlande, je ne sais plus, mais enfin bon, on doit être au taquet. Ça représente des sommes considérables. Donc si vous voulez commencer à vous dire bon, on a des sommes considérables qui sont génératrices de déficit, il va falloir aussi penser et c'est, on revient juste au point d'avant à comment est-ce qu'on fait pour réduire ces déficits-là, à contrôler la dépense.
Bah oui, maîtriser oui. un peu.
Je voulais juste rebondir, mais voilà, Stéphane vient de le dire. C'est vrai que la singularité aussi française. Elle est sur son modèle social et le fait qu'on mutualise les systèmes de retraite, la santé, le reste à charge est un des plus bas
d'Europe,
de l'OCDE.
Oui.
Donc on est effectivement assis sur un système
trop généreux.
Public. Non, pas généreux. En tout cas, qui est coûteux et qui a une certaine efficacité hein, quand même. Hein, il faut le noter. Sur la santé, même s'il y a des progrès à faire, on reste quand même bien classé. Sur les retraites, on dit on est peut-être trop généreux parce qu'il y a effectivement, là, par contre, l'avantage, c'est que le taux de pauvreté des retraités est quand même très bas en France.
Oui.
Beaucoup plus bas qu'ailleurs.
Oui.
Donc, il y a quand même des avantages à tout ça, mais c'est coûteux. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à continuer à le financer ou pas? Et comment on contribue à ce financement? Comment on fait des économies? Est-ce qu'on continue à indexer les retraites de la même façon? Comment on organise tous ces transferts? Est-ce qu'on peut compter sur la croissance? Est-ce qu'il y a effectivement une révolution du côté de l'IA qui nous permet des gains de productivité? Mais ce que je voulais dire, effectivement, sur l'IA, c'est que sûrement qu'il y a des ressources importantes pour un certain nombre de ministères et de fonctionnaires. Mais juste ce chiffre-là, moi je regardais, dans la fonction publique d'État, 80% des effectifs, ou pas loin,
oui.
c'est l'éducation, c'est les militaires et c'est le ministère de l'Intérieur.
Ouais. Donc on en a besoin.
Là-dessus, effectivement, à part l'administration de l'éducation...
C'est régalien, en fait.
Voilà, c'est régalien.
Éducation.
Donc, en fait, si vous voulez, ça limite les effets de productivité. Et puis, comme Stéphane l'a dit aussi, c'est qu'effectivement, même, y compris dans l'administration, on aime des fois avoir des personnes physiques, parce que quand ça marche pas et qu'il y a des bugs,
Valérie. C'est un problème.
Donc, au fond, la question... Et puis, alors, dernier point sur la dépense, qui est important, c'est qu'aussi, on a une dépense en termes de défense qui est assez importante. On a quand même l'arme nucléaire
oui.
plus élevée qu'ailleurs. Donc,
oui.
À la fois
et
notre
qui est appelé
modèle
à
social,
augmenter, oui.
Voilà, on a aussi une structure démographique, on a un peu moins qu'avant, mais on a quand même aussi plus d'enfants qu'ailleurs. Donc vous regardez, par exemple, la dépense par élève en France n'est pas plus élevée qu'ailleurs, mais on a plus d'élèves. Donc fatalement, vous avez des
effets. Ça a baissé, ça, hein, du coup.
Ça a baissé, même très vite, et ce qui est largement inquiétant. Mais bref, tout ça, je veux dire, c'est que il va falloir faire des efforts. On est dans une situation très difficile, mais malheureusement, il y a assez peu de recettes miracles. Il y a des efforts à faire où il y a des... J'allais dire réponse structurelle, mais une réponse structurelle, elle se construit dans le temps. Et que là, en fait, on est sur une construction dans les prochains mois, les prochaines années, et qu'il va falloir faire les deux.
Et en fait, il faut faire à la fois le court terme et le long terme.
Oui, c'est ça.
Il faut penser à la réduction des déficits dans les cinq prochaines
Exactement.
Années. Et il faut une planification long terme, parce que la sortie par le haut, c'est la productivité et la croissance.
Et c'est ça.
On a un comité d'experts qui va y réfléchir dès le PLF 2027. Là, on va y venir. Valérie Chagnol,
je voulais revenir sur deux choses. Sur l'IA, effectivement, l'organisme. L'IA n'est jamais qu'un outil. Et effectivement, moi, ce que je crains, c'est que cette facilité relative amène une surréglementation. Parce qu'après tout, on peut complexifier les textes, puisqu'il y a un outil qui nous permet de les expliquer. Et ce que je crains aujourd'hui, alors je rentre dans un débat un peu plus long terme.
Ah, ça, c'est encore autre chose. L'IA, moteur de l'excès de normes.
Ah, oui. Une des contreparties de ces réformes qui coûtent et qui sont douloureuses pour un certain nombre de gens, c'est la simplification, la déréglementation. Et pas un ajout réglementaire parce que on a des outils qui nous permettent de gérer ça. Et
évidemment,
comme vous le dites, plus d'humains.
Car à ça.
L'autre aspect, je reviens sur les retraites, on est quand même aujourd'hui, et ça sera probablement un des sujets de la prochaine campagne, c'est la question de la retraite par capitalisation. On en a déjà parlé, vous savez que le cercle des épargnants y est très attaché, oui. Et nous voyons dans notre baromètre, année après année, une prise de conscience sur la nécessité d'aller vers ce qu'on appelle de manière générique les fonds de pension, mais le rendre.
Et ça se fait à bas bruit, hein, le succès des PER.
Le succès des PER est
évidemment.
Mais le PER est volontaire. Donc ça crée un sentiment d'inégalité. La question du pilier supplémentaire, aujourd'hui, est quand même centrale et je pense qu'elle viendra dans le débat. Et
avec la question du financement qui pose toujours problème.
Et le troisième point, moi, qui m'a beaucoup choqué, c'est la question du taux d'activité des personnes entre 64 et 67 ans,
oui.
Et les prochaines réformes ne vont pas dans le sens d'une activité supplémentaire, parce qu'on veut réduire le cumul emploi-retraite, mais je trouve que là, c'est une économie qui est malvenue.
Les sages allemands préconisent d'allonger encore, on arrive à 67 ans en 2031 en Allemagne pour la retraite, comité des experts vient de dire qu'il faudra probablement aller au-delà. Allez, il nous reste 5 minutes, je voulais simplement toucher un mot de ce rapport qui a été commandé par Bercy auprès de 4 économistes qu'on connaît bien, souvent invité des experts, pour faire des préconisations d'ici à juillet pour redresser les comptes publics. Alors, on parle d'une initiative inédite. Bon, un rapport, on sait à peu près, enfin, j'ai envie de dire, on sait à peu près ce qu'il faut faire, non, pour redresser les comptes publics. À quoi il va servir ce rapport? Non, pas tout à fait d'accord.
Si on savait exactement ce qu'il faut faire, on le ferait. Non.
Parce qu'on sait ce qu'il faut faire qu'on est prêt à le faire. Non, ça demande un peu de courage politique.
Quelle est l'ampleur du redressement? Sur quel, comment on l'étale ou pas, hein? C'est-à-dire, est-ce que. Il y a différentes façons de le faire. Hein. Quelle est la trajectoire optimale de redressement des comptes publics? C'est tout sauf évident. Alors après, il y a des règles.
C'est quoi? C'est l'adapter en fonction de la croissance,
Attention aux économies. Alors après, je ne vais pas entrer dans la technique, mais il y a des effets de multiplicateurs qui ne sont pas les mêmes en fonction de la situation dans le cycle, en fonction des mesures que vous prenez. Et donc, des fois, ça peut être un peu contre-productif. Hein. Par exemple, si vous faites un choc assez sévère, bah, des fois, vous avez des effets qui sont contre-productifs. Après, vous avez d'autres idées, c'est de le lisser un peu plus dans le temps, mais par contre, il faut être crédible. C'est ça. C'est que vous pouvez dire votre cible, vous la reculez.
On a un petit déficit de ce côté-là. Hein.
Voilà. Mais par contre, il faut être crédible d'un ajustement qui soit plus souple, qui s'adapte dans le temps et donc qui a des effets moins récessifs. Mais par contre, il faut le faire durablement.
Ça veut dire quoi, Mathieu? Si la croissance va baisser, on va réviser à la baisse, hein, la croissance française. L'Allemagne va le faire, passer de 0,9 à 0,5. On sera sûrement pas très loin. Est-ce qu'il faut qu'on réduise l'effort? On est quand même à 5% de déficit, pardon. Est-ce qu'on doit réduire l'effort de redressement des comptes publics?
Alors, réduire l'effort, d'abord, je voulais dire encore une chose là-dessus, c'est que en plus, il y a des engagements européens, il y a des règles européennes, on a tendance à l'oublier, mais il y a quand même des règles européennes.
On a assoupli, et qu'on n'a jamais respecté.
Bah, plus ou moins quand même, enfin, elles sont compliquées, hein, quand vous les suivez. Bon, bref, il y a ça, et puis après, vous avez la question politique, quand on dit l'effort budgétaire, en fait. Moi, je suis d'accord pour sortir tout ça des questions politiques, mais la réalité, c'est qu'il faut trouver des compromis. Il faut trouver des compromis d'adaptation. Certains vont dire il faut faire
un choc par les ordonnances.
D'autres, au contraire, pas du tout. D'autres, il faut faire que des économies sur la dépense. D'autres, dire faut augmenter la fiscalité. La réalité, c'est qu'il faut faire un peu de tout ça. Mais il faut avoir, et ce qu'on dit un peu, c'est il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie de moyen terme, voire de long terme, qui soit crédible sur ce redressement, de façon à ce qu'il soit lissé dans le temps et qui préserve les investissements d'avenir. C'est ça le risque. C'est qu'en fait, quand vous allez couper dans la dépense, en général, vous coupez dans les choses qui vont préparer l'avenir. La réalité, elle est ça, parce que les gens sont plus sensibles à des questions sur le pouvoir d'achat, sur l'indexation des retraites, que l'investissement que vous allez réaliser sur la transition énergétique, sur l'éducation dans les 10 prochaines années, etc. etc.
Ou la défense.
Ou la défense. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous privilégiez le court terme au détriment du long terme. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait une forme de garde-fou pour éviter ça, mais on voit que le débat politique aujourd'hui ne le permet pas. Mais clairement, il va falloir faire un ajustement budgétaire conséquent et durable, tout en préservant l'avenir, et je pense que c'est ça le défi qui nous attend.
Et le défi des quatre auteurs, on peut les citer, hein, Xavier Jaravel, Xavier Rago de l'OFCE, Jean-Luc Tavernier, l'ancien patron de l'INSEE, et Natacha Valla.
J'ai une petite expérience dans ce domaine en tant passé au Conseil des Finances Publiques, mais, et nous avons eu aussi à siéger auprès d'anciens ministres des Finances. La question est aussi effectivement, alors si je prenais qu'un seul exemple, c'est effectivement inverser le raisonnement, c'est-à-dire que le budget annuel doit se conformer à la programmation pluriannuelle et pas le contraire. Aujourd'hui, la programmation pluriannuelle s'adapte aux aléas annuels et donc on ne sort pas de cette équation qui ne permet pas de faire des programmations de long terme en matière de
dépenses. Elles ne sont jamais respectées.
Courbe
bien connue des budgétaires.
Enfin, du moins, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas respectées.
Toujours des objectifs très ambitieux, ils ne sont jamais respectés.
Et ce principe et cet état d'esprit n'est pas favorable effectivement à des projections durables et on rentre, vous l'avez dit, mais on le sait tous, dans un cycle politique qui n'est pas du tout favorable à ça, avec une absence de majorité et effectivement des demandes qui sont tout à fait opposées à cela.
Est-ce qu'on doit s'adapter dans le cycle, au cycle économique qui ralentit, là on voit bien que ça va être compliqué, 2026-2027, est-ce qu'il faut revoir à la baisse les prévisions d'effort, d'économie, Stéphane Carcillo?
Écoutez, moi je pense qu'il faut évidemment tenir compte du cycle économique, c'est extrêmement important, mais vu la situation budgétaire française, de toute façon, il va falloir planifier ces réductions de dépenses. Après, toutes les réductions de dépenses n'ont pas les mêmes effets sur la croissance. Enfin, je suis pas un spécialiste, c'est Mathieu qui sait ça, mais la nature de l'ajustement, ce qu'on cible comme type de dépense, va pas avoir le même effet. Notamment, c'est sûr que lorsque vous ciblez des réductions de dépenses qui vont affecter des personnes qui ont très peu d'épargne, par exemple, bah ça va affecter tout de suite leur consommation et ça peut avoir des effets plus importants. Donc le ciblage des efforts, la nature des dépenses qu'on cible, là pour le coup, c'est pas neutre du tout. Donc on peut revoir cette
composition. Donc c'est cibler les plus aisés, si je vous entends bien. C'était une des préconisations du CAE dans sa boîte à outils.
D'abord, Mathieu, ce qu'il faut rappeler, c'est les chiffres qui sont assez conséquents. Le problème, c'est qu'on part d'une situation qui est très dégradée.
Oui.
Beaucoup plus dégradée que nos voisins.
Il est plus dégradé d'or.
À ce niveau de déficit et avec la croissance qu'on a, on a une dérive de la dette publique. Sachant que le renouvellement de notre dette, qui s'était fait avec des taux très bas pendant la décennie 2010, aujourd'hui nous coûte cher. Et que, progressivement, on a plusieurs dixièmes de points de charge d'intérêt supplémentaire chaque année qu'il va falloir déjà compenser. À ça s'ajoute l'effort de défense, la transition. On s'est engagé, on a fait une suspension de la réforme des retraites qui n'était pas prévue, qui devrait reprendre des économies. En fait, on a des dépenses engagées qui sont importantes aussi. Oui. Et donc, le simple fait de stabiliser le déficit, c'est déjà faire des ajustements budgétaires.
Eh oui.
C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, on va devoir compenser.
Et pas qu'un peu, hein. On parle d'une centaine de milliards.
Et donc, voilà. Et donc, vous arrivez à, c'est facilement d'ici la fin de la décennie, à plus de 100 milliards d'euros d'efforts bruts. C'est-à-dire vraiment ce qu'il va falloir mettre sur la table. Donc, ça veut dire, et c'est pas 20 milliards sur 5 ans, hein. C'est que c'est une montée en mode escalier.
Plus,
arriver à 100 milliards par an d'ici la fin de la décennie. Donc, 100 milliards, globalement, vous êtes obligés d'avoir un éventail assez large. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire juste du chirurgical. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué avec un effet de montée en charge pour le rendre plutôt intelligent et accompagné de mesures structurelles.